Monsieur Safin, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Safin, vous êtes kinésithérapeute spécialisé en orthopraxie et en posturologie.
Oui, c'est bien ça.
Monsieur Safin, qu'est-ce que l'orthopraxie ?
L'orthopraxie, c'est un ensemble de techniques de manipulation sensorielle, somesthésique, donc c'est de la médecine manuelle, qui est d'une origine empirique extrêmement ancienne. Ça vient de la nuit des temps, comme toutes les médecines manuelles. Mais elle a une particularité, c'est que toutes les techniques sont exprimées par le praticien sur un sujet qui se tient debout, donc qui est en appui, qui est en, qui est aux prises avec le système gravitaire, soit debout, soit au pire assis, mais toujours avec les pieds posés au sol. Donc toujours avec une référence qui ramène à la gravitation.
Monsieur Safin, c'est donc bien une spécialité de kinésithérapie, l'orthopraxie ?
C'est un développement récent donc qui rentre dans le champ de compétences des kinésithérapeutes, puisque ce sont des techniques manipulatives entre guillemets qui n'utilisent aucun vecteur de force et qui n'ont pas de lecture ou de vocation biomécanique, donc comme on l'entend au sens habituel du terme manipulation, mais qui sont véritablement des manipulations neurosensorielles, donc qui s'adressent avant tout à l'activité des boucles sensorimotrices.
Et l'orthopraxie est enseignée où ?
Alors l'orthopraxie fait l'objet d'un enseignement spécifique que je dispense, donc qui s'adresse à des professionnels qui sont déjà dûment diplômés, qui possèdent un diplôme d'état de kinésithérapeute ou de médecine.
Monsieur Safin, en quoi l'orthopraxie s'enrichit-elle de la posturologie ?
Eh bien, quand on manipule son sujet debout, on ne peut pas faire l'économie de se poser la question de savoir comment la station debout est organisée. Et la posturologie nous a donné donc le support, plan de la neurophysiologie du contrôle postural, du contrôle moteur, donc qui nous permet de comprendre par où passent les effets des actes que l'on réalise et puis ce qu'on peut attendre donc de ces actes, quelles sont les indications, quelles sont les non-indications, donc quels sont les sujets qui vont pouvoir être intéressés par nos traitements et en bénéficier.
Monsieur Safin, quelle est la différence entre l'orthopraxie et les autres médecines manuelles ?
Pour le commun des mortels, on pourrait penser qu'il n'y a pas de différence, puisque dès qu'on y met les mains, c'est un petit peu la même chose pour tout le monde. Pour nous professionnels, il semble qu'il y ait des différences. Il y a une différence fondamentale, c'est que quand on met les mains sur un sujet qui se tient debout, donc encore une fois qui est aux prises avec les effets gravitationnels, il ne se passe pas du tout la même chose que quand on manipule entre guillemets quelqu'un donc qui est couché par exemple. Tout simplement parce qu'en situation antigravitaire, la consigne implicite qui est donnée à son cerveau, c'est de faire en sorte qu'il puisse se tenir debout. Autrement dit, que son cerveau intègre les informations qui viennent des récepteurs périphériques et puis délivre une réponse qui est exécutée par les effecteurs musculaires et qui permet donc de stabiliser les degrés de liberté articulaire et le corps dans l'espace. Donc ça, c'est le travail de fond qui existe donc de façon implicite lorsque le sujet se tient debout au pied du thérapeute, en quelque sorte. Et lorsque le thérapeute va ajouter par sa manipulation un flux proprioceptif, donc un flux d'informations qui viennent du système proprioceptif, ben ce flux va s'avérer extrêmement prégnant, mais va devoir, en temps réel, être combiné par le système nerveux central, donc pour, amener une réponse qui va se manifester donc au plan des effecteurs musculaires. Le système nerveux central ne peut pas faire autrement que d'écouter de façon simultanée le flux proprioceptif donc, qui est généré par la manipulation et le bruit de fond des récepteurs sensoriels qui permettent au sujet de se tenir debout, à savoir ce qui vient des yeux, de l'oreille interne et de la somesthésie, et de recombiner les nouvelles informations nées de la manipulation avec ce bruit de fond. Et il semble que ça change pas mal de choses donc, sur les résultats qui peuvent être obtenus donc, par ce genre de traitement avec donc un contexte aussi particulier que celui-là.
Et qui est vérifiable, somme toute, avec la stabilométrie ?
Qu'on peut vérifier avec soit des tests cliniques qui sont opérateurs dépendants et qui sont ceux habituellement utilisés en posturologie, et puis qui peut bien entendu être vérifié par les outils non opérateurs dépendants, que sont les plateformes de force qui sont aussi donc couramment utilisées en stabilométrie.
Monsieur Safin, quelles sont les personnes qui sont intéressées par l'orthopraxie ? Quelles sont les personnes qui viennent vous voir ?
Comme, encore une fois, le contexte manipulatif est celui d'un homme qui se tient debout, on peut élargir les indications à tous les troubles de la cognition spatiale. Alors la cognition spatiale, ça part des douleurs musculo-squelettiques puisque c'est l'appareil musculo-squelettique qui permet à l'individu, donc au plan physique, de se tenir debout, mais ça va aussi aux troubles perceptifs, donc qui accompagnent par exemple les pathologies de l'appareil vestibulaire, les troubles de l'oreille interne, qui vont se traduire par des pertes d'équilibre ou des vertiges, qu'on ne résoudra pas à ce moment-là par des techniques de type orthopraxie, mais par d'autres techniques qui entrent dans notre champ de compétences. Donc à ce moment-là, ce sera une prise en charge différente du malade. Ça peut être le cas aussi des troubles neurovégétatifs, des troubles fonctionnels, des troubles émotionnels qui vont accompagner ces difficultés de situation dans l'espace ou de perception de l'espace. Mais encore une fois, là, on n'est plus dans du manipulatif direct. Et puis, ça va aussi nous ouvrir la porte des pathologies qui relèvent donc des tâches qui sont visio-guidées. Et on pense bien entendu à ce moment-là aux enfants dyslexiques, aux dyspraxiques qui semblent donc avoir des problèmes d'apprentissage scolaire avec donc des perturbations sur l'organisation du regard et sur la réalisation, sur la conduite donc du regard dans la réalisation de tâches visio-guidées.
Monsieur Safin, j'ai récemment entendu parler de prismes posturaux. Pouvez-vous me dire ce que c'est ?
Alors, quand on parle de prismes posturaux, on parle donc d'une orthèse, en quelque sorte, d'un dispositif qui est placé donc sur des montures ou sur la paire de lunettes du sujet qui en possède déjà et qui va modifier donc la relation sensorielle visio-spatiale. Les prismes posturaux, bien que je n'en sois pas spécialiste, sont différents des prismes utilisés habituellement en strapologie et ils s'en distinguent surtout par leur puissance. Les prismes posturaux sont des prismes qui sont toujours inférieurs à 3 dioptries donc de puissance, donc qui ne dévient pas l'œil en quelque sorte de plus de 1,5 degré. Donc ils sont minimes et il semble donc que leur action ne passe pas par une modification du champ visuel en quelque sorte, mais selon ses promoteurs, beaucoup plus par une modification des tensions des muscles oculomoteurs. Alors dès qu'on parle de muscles, il est bien certain que nous, en tant que kinésithérapeutes, ça nous intéresse. Et autant donc les muscles spino-profonds, par exemple, qui sont davantage notre territoire habituel, mais pourquoi pas les muscles de l'oculomotricité, puisque ce sont eux qui permettent l'organisation du regard et qu'encore une fois, un système musculaire qui fait partie d'un système plus global qui nous permet de nous tenir debout, il est bien certain donc que cela nous intéresse différemment. Alors la question qui se pose pour nous, c'est que puisqu'à partir d'un prisme, on peut relâcher donc l'ensemble de la musculature périphérique antigravitaire, est-ce qu'avec nos mains, on est capable d'obtenir donc par des manipulations spécifiques, des manipulations neurosensorielles spécifiques, un effet comparable à celui d'un prisme postural, à savoir une régulation, une réharmonisation de la distribution des forces antigravitaires. Il semble que nous en soyons tout à fait capables. On a commencé à travailler là-dessus, donc, et plus particulièrement donc, avec des enfants qui sont en défaut d'apprentissage scolaire, en utilisant donc des tests cognitifs qui sont habituels pour ce type d'enfants et en montrant que nous pouvions donc les modifier dans le bon sens après nos séances. Et puis il y a des orthoptistes, donc, et en particulier une orthoptiste de Marseille donc, qui s'est penchée un petit peu sur la question parce que elle avait l'habitude de poser des prismes posturaux chez les enfants dyslexiques qui lui étaient confiés depuis des années, après avoir fait donc une formation avec les gens de l'école de Lisbonne. Et elle s'est aperçue à son grand étonnement que lorsque on faisait donc des séances d'orthopraxie à ses enfants, elle observait au niveau de l'organisation du mouvement oculomoteur une même modification qu'avec les prismes posturaux et des tests de tâches visio-guidées qui étaient améliorés à l'identique. Alors bien sûr que c'est une observation qui est subjective, mais enfin l'amélioration des tests est là malgré tout, elle, en tant qu'élément objectif. Nous avons la volonté de monter une manipulation expérimentale avec une méthodologie qui soit suffisamment fiable donc pour que cette manipulation puisse avoir de la valeur. Donc on y travaille depuis déjà quelques temps. La difficulté pour nous, c'est de trouver une équipe universitaire qui soit intéressée par le projet et puis qui nous aide à mettre en place la méthodologie pour qu'encore une fois, on ne se retrouve pas avec des biais manipulatifs qui ruinent les efforts entrepris.
Donc c'est un appel, je pense.
C'est une forme d'appel, même si aujourd'hui, il semble que l'on... On commence à tenir le bon bout, donc avec des gens qui sont intéressés, mais c'est malgré tout un appel, oui, absolument.
Monsieur Safin, vous comptez, je suppose, être le vecteur de l'orthopraxie dans le futur ?
J'espère que je le serai encore pendant quelques années, mais j'espère surtout que d'autres vont s'approprier à la fois le savoir-faire et puis le savoir pour en être des vecteurs. Quand on est plusieurs à parler d'un même sujet, on a beaucoup moins de chances de raconter des bêtises et puis c'est un meilleur facteur de développement. Il faut que les kinés sachent quand même, et que le public sache quand même que c'est un champ de... c'est une technique donc élargie de façon considérable donc le champ de compétences de la kinésithérapie qui lui ouvre des portes sur des pathologies qui étaient jusque-là donc pas abordées ou qu'on ne pensait pas pouvoir influencer avec nos mains. Ce qui me paraît aussi essentiel, eh bien, c'est qu'on continue à utiliser le support d'une neurophysiologie validée pour démontrer l'efficacité de ces techniques et puis qu'on comprenne encore une fois qui fait quoi, par où ça passe et que donc on fasse du travail qui soit véritablement solide et qu'on ne reste pas dans le seul domaine de l'hypothèse, même si les résultats sont là pour sembler nous montrer que nos hypothèses ont quelques valeurs.
Monsieur Safin, je vous remercie beaucoup.
Merci de votre patience.